10h39, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1. Vous avez des choses à nous dire, il se passe quoi que ce soit sur la route, c'est le 418-971-1021, 418-971-1021.
Vous rappelez qu'il y a un incident en ce moment sur Henri IV Nord pour chemin Saint-Louis, voie de droite partiellement entravée, c'est une sortie de route. Il y a des difficultés sur le pont direction Nord d'ailleurs, là, si vous êtes sur le pont Pierre-Laporte précisément. Quoi que ce soit d'autre, 418-971-1021.
C'est un plaisir de recevoir notre prochain invité. Les gars, si vous avez des troubles pour bien manger, ben ça va être votre meilleur ami pour la prochaine année. Son nom, c'est Vanessa Daigle. C'est pas la première fois que vous l'entendez sur nos ondes. Salut Vanessa!
Salut!
Très content de te jaser. C'est quoi la différence entre une nutritionniste et une diététicienne?
Ben, il n'y en a pas.
C'est la même chose!
Il n'y en a pas partout, c'est juste un synonyme. En fait, avant, le terme, c'était diététicienne.
Ouais.
Puis, tu sais, ça fait très référence à la diète. On dirait que c'est comme un peu négatif comme terme. Fait que plus ça va, plus on parle de nutritionniste. En fait.
C'est donc bien drôle. Moi, j'étais sûre qu'il y avait vraiment deux types de métiers. Puis je jugeais les diététiciennes mon nutritionniste.
Je me disais, c'est deux bacs, là.
C'est exactement la même chose. D'ailleurs, si vos assurances est marquée comme diététicienne, ben ça couvre la nutritionniste. C'est exactement la même chose.
Ah, ben tu vois, c'est important.
Voilà, c'est réglé.
C'est
important de faire la nuance. Puis pourquoi tu t'es intéressée au merveilleux monde de la diète ou encore de la nutrition?
Eh mon Dieu! Ben moi, je suis comme... j'étais pas là-dedans pantoute, là, quand j'étais jeune. Pour vrai, je mangeais pas tant bien, je sortais d'un bar, je faisais pas trop attention. Puis à un moment donné...
T'avais une vie le fun.
J'avais une vie le fun.
À cette heure, tu surveilles ce que tu manges. Là, ça goûte un peu plus
plate,
fat.
Là.
Mais puis à un moment donné, je me suis mis à m'entraîner. Puis j'étais comme, crème, c'est le fun. Puis là, c'est comme un servicieux. Puis je suis tombée dans cette passion-là, les deux en même temps, là, training puis alimentation. Puis j'avais un bac en admin. Moi, je commençais une maîtrise en gestion de projet, puis tout lâcher pour aller en nutrition.
Ça a été quoi le déclic?
Ben, ça honnêtement?
Ouais.
Oui, honnêtement. Mets-toi à nu.
Ben, j'étais dans une phase de ma vie où j'étais tutorial dans un bar, puis je prenais trop d'alcool, je mangeais mal, puis j'avais pris une coupe d'olive, fait que je me suis dit...
T'étais résidente dans un bar.
Je devrais peut-être faire attention un peu à ce que je mange, fait que c'est là que... C'est ça, ça a vraiment été ça, pour vrai.
Quel déclic a été là.
C'est drôle, parce qu'on dirait que souvent, les professionnels de la santé au sens large, c'est un peu ça. Tu sais, on entend souvent que les psychiatres ou les psychologues, c'est parce qu'ils veulent comprendre leur propre mal-être. On entend souvent que les nutritionnistes veulent apprendre eux-mêmes à gérer ce qu'il y a dans leurs assiettes. Mm-hmm. Ça me fait rire.
Mais moi, j'ai un ami que j'aime bien qui est psychologue, puis j'ai une connaissance qui est psychiatre, puis je ne changerais pas ma vie avec la leur. Effectivement, c'est particulier.
Ça a l'air compliqué dans le temps.
Oh, oui. Mais ils font un très bon travail. Vanessa Daigle, on commence avec la nourriture. Souvent, quand on entend parler d'une diététicienne ou d'une nutritionniste, on a toujours l'impression que, si, admettons, on rencontre ces gens-là, jusqu'à la fin de nos jours, notre nourriture ne goûtera plus rien. On n'aura plus le droit d'avoir des petites journées où, petite palette de chocolat, une petite bière, de microbrasserie. Mm-hmm. C'est-tu vrai?
Ben pas en tout. D'ailleurs, Audrey, je m'excuse, mais il faut que je te cite. Là. Tu m'as tellement fait rire. Audrey m'a envoyé un message, puis elle me dit, on va parler de comment est-ce qu'on fait pour bien manger sans que ça goûte la marde. J'étais comme, OK, sérieux? C'est quasiment insultant.
Mais je pense que c'est la façon la plus facile de le dire pour la majorité des gens qui se posent la question.
Mais en fait, moi, je dis toujours justement que ma job et ma mission de vie, là, c'est de faire réaliser aux gens que manger santé, ça peut vraiment être le fun, pour vrai. Là. Puis toi, je pense que tu me suis sur Instagram. Je partage beaucoup de choses que moi, je mange. Puis je mange santé, puis pour vrai, je me régale. Là. La différence, la nuance, c'est dans les skills culinaires. Si tu sais cuisiner, si tu es capable de faire quelque chose qui est gourmand, savoureux, mais avec des ingrédients qui sont sains, qui sont cuisinés maison, c'est ça le fait, là, pour vrai.
Ouais. Mais il est peut-être là le point intéressant, parce que je pense que les gens qui ne savent pas cuisiner se ramassent malheureusement à manger du riz, des brocolis puis du poulet sec, puis c'est là que ça les insulte.
Ben, y a ça. T'sais, moi, hier, j'ai fait une découverte. Pour la première fois de ma vie, je mangeais quelque chose que je trouvais super bon, qui était très santé, du tofu.
Mm-hmm.
D'habitude, à la maison, quand je me faisais ça, vers ça. J'en mangeais, mais tu sais, du tofu, je trouve ça
ordinaire.
J'aime bien mieux, de la viande. Puis hier, de la façon dont c'était apprêté, ça goûtait le ciel. Au départ, je pensais, parce que j'ai vu des petits morceaux de tofu qui avaient été frits, je pense, là. Mm-hmm. Mais je pensais que c'était des petites patates déjeuner. Ça ressemblait à ça.
C'était
un genre de sous-marin avec des patates déjeuner. Non, c'était super bien assaisonné. Je me suis dit, voyons, ça a donc bien de l'air bon. J'ai goûté, c'était bon. Puis, dans le milieu du repas, je dis à Isabelle, c'est quoi on mange, hein? Elle se dit, tu manges du tofu.
C'est drôle.
C'est bon. C'était la première fois que je mangeais du tofu qui était bien apprêté à mon goût à moi. Là.
Mais c'est
fait
ça.
Que c'est possible.
Mais aussi, c'est que l'historique, mettons, on remonte il y a quelques années, tu sais, ce qu'on voyait beaucoup, justement, ben, il y a la fameuse culture des diètes, là, qui est comme vraiment dans la restriction. Puis il y a aussi l'univers du fitness, tu sais, qui nous a comme appris, parce que si on fait référence plus aux gars, justement, qui ont peut-être ce modèle-là, là, qui vient du fitness, où on se fait son petit meal prep. Tu sais, 5 petits plats pareils avec poulet, brocoli, puis riz basmati, genre. Puis ça, c'est que, justement, c'est tellement restrictif, puis on met tellement rien, tu sais, pas de gras, pas de sucre, pas de sel, que ça, c'est plate, tu sais. Mais entre, comme, manger, diète, puis restrictif, mal manger, il y a un monde de possibilités, tu sais. On parle tout le temps de l'équilibre, là. L'équilibre, je pense, c'est la quête d'une vie, là. Mais, tu sais, c'est que si on veut trop bien faire, qu'on s'attend à ce qu'à tout couper, là, pour que ce soit parfait,
on se décourage.
On se décourage, puis c'est là que c'est pas bon, tu sais. C'est correct d'en mettre un peu de sauce soya pour qu'il y ait du sel. C'est correct d'en mettre un peu de sirop d'érable pour qu'il y ait du sucre puis que ça goûte, de rehausser avec une sauce piquante, des herbes fraîches.
C'est... Moi, c'est là que ça a souvent floppé parce que je suis pas une grande cuistot. Là. Je prends rien à personne. Là. Il y a tout ce que je cuisine, généralement, ça floppe. puis le gros du problème était là parce que j'en venais à acheter plein d'aliments sains, mais que j'allais manger de façon un peu séparée sans les apprêter. Puis ça devenait plate sur un temps.
Oui, c'est ça.
Vanessa Daigle, quand on est obèse morbide, on le sait qu'on n'est pas nécessairement en santé. Quand on est mince, on a l'impression qu'on est en santé puis qu'on n'a pas besoin de faire attention à notre alimentation. Puis j'en parlais avec Audrey. Les gars qui sont minces peuvent avoir du gras autour de l'abdomen. Puis il y a un médecin qui me racontait que c'était un des pires gras qu'on pouvait avoir,
Tellement. Mais
que souvent, il était invisible. Parce que, bon, t'as pas de bedaine. Bon, il y a peut-être un petit rebond, là. Mm-hmm. On va se donner une chance. Mais le gras que tu peux avoir là, c'est un gras qui peut donner des cancers.
Bien, des cancers puis plein d'affaires. En fait, c'est un gras qui va aller se loger au niveau des organes. Fait qu'il va faire en sorte que tes organes vont moins bien fonctionner. Puis, je pense que la plus belle illustration de ça, en fait, c'est la stéatose hépatique non alcoolique. Là. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais dans le fond.
Stéatose hépatique non alcoolique.
Oui. C'est la maladie du foie. Le foie, dans le fond, c'est comme c'est progressif. Fait que, dans le fond, c'est dans les premiers stades de la maladie du foie. Puis, il commence à y avoir des lésions au niveau du foie qui sont vraiment dues à l'accumulation de graisse qui se trouve là. Mais dans les 10 dernières années, la prévalence de stéatose hépatique non alcoolique, elle a comme bondi au Canada. Là, on est rendu à 20 % des Canadiens qui ont une stéatose hépatique non alcoolique. Ça veut dire qu'ils ont une accumulation de graisse au niveau du foie qui font en sorte que le foie fonctionne mieux. Puis là, je te parle juste de cet organe-là, mais c'est parce que les statistiques sont débiles.
Ouais.
Mais c'est clair que ça a un impact.
Puis est-ce que c'est possible d'aller le chercher, ce gras-là, qui ne paraît pas du tout, mais qui est autour de nos organes? C'est possible d'aller le chercher pour l'enlever complètement?
Bien, par rapport à cette pathologie-là, là, de la stéatose, ce qui est vraiment cool, c'est que c'est 100 % réversible. Si tu n'es pas dans un stade trop avancé, mettons, si tu n'es pas rendu en cirrhose, là, tu changes tes habitudes de vie, effectivement, oui, là, c'est possible. Mais tu sais, quand, dans le fond, on change nos habitudes de vie, l'affaire, là, c'est que. Puis une des questions que tu me posais, justement, Audrey, c'est comment est-ce qu'on peut faire partir la petite bédaine? Mais tu sais, quand tu changes tes habitudes de vie, ce n'est pas toi qui décides où est-ce que tu vas le perdre, ton gras. Les femmes, souvent, c'est plus réparti. Puis là, les femmes vont dire, mettons, ben moi, je vais perdre mon gras dans les fesses. Mais là, on ne le sait pas. Tu peux en perdre d'un bras, tu peux en perdre. Alors que l'homme, effectivement, si c'est localisé à l'abdomen.
Faut juste pas qu'il en perde dans les seins.
Mais souvent, ça vient aussi, ça, malheureusement.
C'est ça, c'est pas la première en droit de t'en faire.
On vous aime comme vous êtes!
Oui, mais le beau est inverse aussi, hein. C'est d'être là qu'on prend en premier, généralement, fait qu'au moins...
OK, donc on peut perdre ce gras-là qu'on ne voit pas, qui est autour de nos organes, qui est extrêmement dangereux. Y a-t-il des probabilités pour le cancer aussi? On parlait de toxines à l'intérieur de ce gras-là. Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai, définitivement. Puis, tu sais, il faut savoir que le gras aussi, c'est pro-inflammatoire, là. Fait que, tu sais, une accumulation de graisse, peu importe où elle se loge, ça va générer de l'inflammation. Puis, tu sais, l'inflammation de bas grade, c'est un problème du siècle aussi, là. C'est vraiment pas un environnement qui est sain pour tout le fonctionnement métabolique. Ouais.
On a tous eu un oncle qui nous disait « Fesse dans mon ventre, tu vas voir, il est dur. » Un oncle avait une grosse bedaine.
Bedaine de bière.
Des fois, c'est plus une bedaine de bière.
Cette bedaine dure-là, c'est dû à quoi?
Bien, c'est vraiment ça, en fait. C'est que c'est la manière dont les gras sont logés autour des organes, en fait. C'est ce que ça fait. C'est la bedaine dure. Fait que c'est vraiment... La bedaine dure, c'est le gras qu'on veut pas. Là, c'est le gras qu'on appelle qui est viscéral, qui est dangereux, le plus dangereux. Puis c'est plus masculin parce que les femmes vont en avoir plus, justement, un peu partout sur le corps. que juste dans l'abdomen.
À quel point, j'ai envie de, qu'on revienne à l'alimentation puis les substituts, parce que souvent, il y a des gens qui vont essayer au départ, comme avec la cigarette, d'aller vers la vapoteuse. Il y a des gens en alimentation qui vont essayer d'aller vers des produits qui sont transformés, mais qui sont santé, entre guillemets. Me suis-tu un peu, tu sais, mettons, les fameuses chips qui vont avoir 20 grammes de protéines dedans, puis qui vont être moins caloriques. Puis je connais des gens qui ont comme vraiment fait des substituts dans leur alimentation pour ajouter beaucoup de ces produits-là en se disant, ben là, j'arrive à combler mon nombre de protéines dans ma journée, mais ils mangent pas nécessairement, tu comprends, de viande ou de... Ça va être genre les céréales qui ont été pimpées, les shakes, les ci, les ça. Où est-ce qu'on se dose, puis à quel point c'est bon, ces produits-là? C'est-tu à traiter comme un dessert, comme une gâterie, ou ça peut vraiment être incorporé dans une bonne alimentation?
Je pense que c'est vraiment des produits dépanneurs. C'est-à-dire que si t'es mal pris, t'es comme « Ah, oh, mon Dieu, là, j'ai vraiment faim, je suis sur la route, faut jamais chercher un snack », tu sais, de prendre comme ça des chips qui sont protéinés, OK, ça va être le moins pire des choix, ou je sais pas, tu sais. Mais au quotidien, en fait, c'est que souvent, là, c'est qu'on regarde juste les valeurs nutritives, mettons, puis il y a des céréales que c'est vraiment ça. Là. Mettons, tu regardes les valeurs nutritives, OK, il va avoir des fibres, il va avoir des protéines. Mais au final, c'est tellement comme l'industrie alimentaire va prendre un produit qui est super raffiné, donc, tu sais, qui est vraiment comme... qui n'a pas de valeur nutritive, puis après, il va aller ajouter des additifs. Donc, un additif de protéines, un additif de fibres. Puis là, il va aller jouer comme ça avec les valeurs nutritives pour ajouter des petits plus qui vont faire en sorte que tu vas être rassasié. Mais watch out la liste d'ingrédients, là. Comme c'est
ça qu'on devrait regarder?
Tellement, tellement. Puis moi, pour vrai, là, au fil du temps, tu sais, j'ai évolué aussi dans ma profession, dans le sens que quand j'ai commencé, puis souvent, les gens, ils s'initient à la nutrition en lien avec la composition corporelle, puis c'est un peu le sujet du jour, là, tu sais, c'est comme « Ah, ouais, je veux être plus en shape », mais comme plus que tu apprends, puis plus que tu peaufines tes raisonnements, plus que la santé, là, ça va au-delà de, comme, tu sais, de justement les valeurs nutritives, les macros, mais la liste d'ingrédients. On mange des sauces qui sont tellement transformées, puis après ça, on se demande justement pourquoi qu'on a des cancers, pourquoi tout le monde a mal au ventre, tu sais. Hey, les gens, ils ont des troubles digestifs plus que jamais, là.
Mais ça, là, c'est intéressant, parce que moi, on me l'a appris comme ça, là. Yann, quand j'ai commencé à avoir un nutritionniste il y a plusieurs années, là, ça fait un méchant bout maintenant, là. Au début, on parlait beaucoup, beaucoup de mes macros, puis de regarder justement les valeurs nutritionnelles derrière pour atteindre un certain nombre de protéines, de lipides, dépendamment de si je m'entraînais pas, tu sais. Puis la liste d'ingrédients, c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais été vraiment éduquée. Je sais que moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Mais as-tu un barème, mettons, à nous proposer? C'est quoi quand tu as plus que 10 ingrédients, commence à te poser des questions?
C'est difficile à dire parce que des fois, parmi les ingrédients, il va aussi avoir comme une déclinaison d'ingrédients. T'sais, mettons le chocolat, ça contient du beurre de cacao, mais au final, c'est du chocolat dans ton ingrédient. T'sais. Puis des fois, c'est des vitamines aussi qui n'ont pas le choix de mettre là. J'ai vraiment de la misère à te répondre, mais si tu vois qu'il y en a plusieurs, au-delà de 2-3 là, noms compliqués que tu ne comprends pas, là, ça vaut la peine. Puis moi, un aliment que je consommais avant, que je croyais santé, puis que maintenant, je suis comme... c'est les tortillas. Tu sais, il faut se faire des fajitas.
Ouais.
Oh, ouais.
Regardez la liste d'ingrédients de ça.
On va halluciner. Ouais. Je me pose des questions. Quand toi, tu vas faire ton épicerie, te reconnais-tu quand tu reviens à la maison après? Est-ce que ça prend 2-3 jours avant de revenir?
Ben, en fait, non, parce que maintenant, tout ça est très acquis. Là. Au contraire, ça me prend 36 secondes.
C'est rapidos. Okay.
Il y a une question d'auditeur qui est entrée. Ceux qui commencent l'entraînement, tu sais, on nous vend tellement de choses, style pré-workout, post-workout, créatine. Peut vite se perdre. C'est quoi qui est bon et qui est mauvais là-dedans? Tu sais, les fat burners et toutes ces patentes-là, là.
Fat burner, c'est vraiment pas supporté scientifiquement. Là. Honnêtement, cet univers-là, s'il y aurait des suppléments, des pilules là, qui feraient perdre du poids vraiment, là, on le saurait. Là, maintenant, on est sur Ozempic, Wegovy, c'est ce qui est efficace, pas les petits fat burners du magasin de suppléments.
Mais l'Ozempic est de plus en plus contesté parce qu'il fait fondre ta masse musculaire aussi.
Ah oui, totalement. Les gens mangent plus, c'est fou. Là. Puis sinon, ben, pré-workout, je veux dire, c'est comme si tu prenais un Red Bull avant d'aller à l'entraînement. Là. Les gens aiment ça parce que ça leur donne un kick. Mais tu sais, si t'es super fatigué, tu prends un pré-workout pour aller t'entraîner. Après, tu vas pogner un méchant down là, parce que ça a full de caféine, un pré-workout. Puis sinon, ben, les gens aiment bien les shakes de protéines après. Moi, je vois ça un peu comme un aliment, un shake de protéines. Honnêtement, c'est un dépanneur. C'est pas nécessaire, mais c'est pratique. Tu peux le prendre, mais au final, surtout si tu commences à t'entraîner. Tu sais, des fois, là, les suppléments, là, des fois, on parle de la genre de pyramide de la nutrition sportive. Là. La base, là, c'est ton alimentation tous les jours. Là. Tu sais, qu'est-ce que tu manges finalement, tes repas, ça ressemble à quoi? Après ça, as-tu des stratégies de nutrition sportive? Fait que justement, qu'est-ce que tu vas manger avant puis après tout ton entraînement? Puis après, c'est les suppléments. Tu sais, ceux qui vont plus gagner à prendre des suppléments, c'est les athlètes de haut niveau. Là. Mm. Pas quand tu commences ton entraînement.
Fait que la personne qui, mettons, un surplus de 50-60 livres puis qui se fait entourlouper puis qui achète quasiment le magasin Popeye au complet, il vient de se faire prendre.
Moi, je m'entraîne full, j'en prends pas de suppléments, là, pour vrai. Mm. Je pourrais, là, parce que c'est pas nécessairement toujours mauvais non plus, mais c'est juste pas nécessaire.
Ben, des fois, il y en a qui partent en peur aussi. Là. C'est comme quand t'as faim, tu vas à l'épicerie, t'achètes plein de cochonneries. Ouais, ouais. C'est la même affaire. Mais tu vas t'entraîner, t'es heureux, t'arrives
dans le
boutique.
Mais quand tu t'y connais pas aussi.
Ouais.
Mais ça vient avec un feeling au niveau psychologique. T'as l'impression de faire les bonnes choses.
T'es en contrôle.
T'es en contrôle, t'as tes petites poudres, tu te sens bien. Tu fais la, ça te met comme dans un mood de genre, je prends soin de moi.
T'as dit, après ça, les gens se demandent pourquoi on a mal au ventre. Puis on dirait que ça m'a comme. On a déjà fait ensemble, un an et demi facile, une chronique sur la digestion puis les selles. Il y avait une étude qui était sortie, puis on trouvait ça spécial de parler de caca en ondes, là, mais c'est parce qu'on y va chaque jour, on fait toute la même affaire. Là. Et c'est quoi l'alimentation versus les troubles digestifs aujourd'hui? T'sais, j'ai l'impression que justement qu'avec tous ces aliments transformés-là, on se cause nous-mêmes certains problèmes. Qu'est-ce qui est peut-être à prioriser quand tu as de la misère avec ton processus puis que tu y vas pas chaque jour? Là?
C'est tellement un monde qui est complexe, Audrey, la santé digestive, en fait. Puis, tu sais, on parle de plus en plus du microbiote intestinal, là, qui est comme toutes les bactéries qu'on a dans le bedroom. Ouais. Puis ça, on en apprend beaucoup au niveau scientifique, puis on en a encore beaucoup à apprendre, tu sais, dans les années à venir. Mais je te dirais qu'avoir un transit régulier, là, pour vrai, ça a l'air con, là, mais comme, est-ce que tu vas à la selle à tous les jours, puis est-ce que tu y vas 18 fois par jour? Sinon, il faut que tu prennes ça en charge. Puis, tu sais, c'est difficile de dire prendre ça en charge comme ça, en vous jasant une couple de minutes, tu sais. Faut quasiment consulter parce que les causes sont tu sais, faut trouver toi, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, qu'est-ce que toi, tu digères pas. Il y a des processus.
Tu vas chez le médecin ou tu carrément?
Je te dirais nutritionniste, honnêtement.
Nutritionniste, oui. Ouais. Maladie de Crohn, tu dois avoir des gens aussi qui avaient cette maladie-là qui ont été te consulter. Les gens qui ont des intolérances aussi.
Intolérance, vraiment beaucoup. Les maladies de Crohn, l'affaire, là, dans le fond, c'est qu'il y a des troubles digestifs qui sont fonctionnels puis non fonctionnels. Les troubles digestifs qui sont non fonctionnels, ça veut dire que si tu vas prendre des radios, mettons, tu vas à l'hôpital, tu vas voir un gastro, il va vraiment trouver quelque chose. Il y a des lésions, il y a quelque chose qui est apparent. Fait que ça, souvent, sont pris en charge par le public. Souvent, je les ai pas, moi, dans mon bureau parce qu'ils vont avoir des petits c'est correct. Ce que je vois full, c'est les autres. C'est les troubles digestifs qui sont fonctionnels, c'est-à-dire que c'est vraiment comme une perturbation de l'équilibre de ton système digestif. Mais si on regarde, si on met la loupe, si on regarde au micro, là, vraiment, qu'est-ce qui se passe là, de plus près, on voit rien. On voit rien. Fait que tu sors de là, tu as fait tous les tests pas possibles. Les médecins disent que tu es correct, mais finalement, tu sais, tu souffres. À tous les jours, tu as mal au ventre, tu es constipé. Fait que là, eux, ils cherchent des solutions, puis c'est eux qu'on voit dans nos bureaux vraiment beaucoup. Là.
Vanessa Degg, j'ai mon petit bagage de préjugés ici. Voilà,
ah, j'aime ça.
Je l'ai, c'est parfait.
Il est assez plein, Vanessa, son bagage de préjugés. Là.
Bon, parfait.
Attends, pourquoi il était dans la poubelle?
Ben, elle joue pas la comédie, elle!
Ben, ce sont des préjugés poubelles, certainement. Là, tu sais, c'est...
Est-ce que c'est vrai que les gars perdent plus facilement du poids que les femmes?
Définitivement. Oh! Hey, des fois, là, genre, j'ai des clientes qui me disent, là, genre, je fais tout ce que tu me dis, change, tu sais, mais c'est elle qui cuisine, fait qu'elle change plein d'affaires, puis elle dit, j'ai pas encore perdu de poids, puis mon chum, il a perdu full poids, puis lui, genre, il s'en fout.
Est-ce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent engraisser même s'ils mangent bien?
Je te dirais, engraisser, même s'ils mangent bien, ben mangez bien. Mangez bien, déjà là, c'est très relatif. Là. S'ils mangent bien, mais trop, oui, ils peuvent engraisser. Mais est-ce que c'est vrai que les gens peuvent ne pas perdre de poids, même s'ils mangent bien? Définitivement, oui.
Est-ce que c'est vrai qu'on mange pas assez? Je me suis toujours fait dire, là, quand tu veux te mettre en shape, que là, faut que tu aies un gros déficit calorique. Puis, on m'avait parlé du 1500 calories pour mon poids ma taille, ce que je trouvais quand même pas beaucoup pour la grandeur que j'ai. Puis, on m'a dit, non, non, au contraire, la pensée change. Maintenant, il faut qu'on mange plus.
Ça dépend vraiment. Il y a des gens qui mangent clairement trop, là, ça, on va se le dire. T'sais, la bouffe est omniprésente. Les aliments sont denses en calories. C'est très spécifique, ça.
Ouais, moi, ce que j'avais entendu, c'est l'idéal, c'est d'avoir un petit déficit calorifique chaque jour.
Pas un énorme.
Pas un énorme. Parce que si tu en as un gros, à un moment donné, ton cerveau puis ton corps vont essayer de compenser.
Comme si tu étais en manque. Là.
Exact. Puis il va se souvenir. Fait que si tu en donnes un petit déficit à chaque jour, tu as peut-être plus de chances de perdre du poids. Écoute, il y a plein d'autres questions que je voulais te jaser. Tu parlais tantôt des fat burners. Bon, ils rajoutent du poivre de Cayenne là-dedans pour que tu aies l'impression que tu transpires, alors que la transpiration a aucun... C'est fou à quel point l'industrie vient de nous chercher. Hein?
On voit des gens, des fois, qui s'entraînent avec des cotons wattés, là, juste pour avoir chaud, pour vrai.
Puis, est-ce que ça donne un résultat?
Ben la chaleur, non. Par contre, le poivre de Cayenne contient de la capsaïcine. Je suis pas sûre que je le prononce comme il faut. Mais ça, il y a quand même la littérature qui a démontré que ça pouvait stimuler le métabolisme. Fait qu'il y a peut-être ça aussi, ouais, là, au niveau de cet ingrédient-là.
Parce que ça, ils en mettent même dans un petit shake dose là, que tu vois, ouais, là, que tu bois le matin avec du gingembre et du citron. Mm-hmm. Là.
Comment ça s'appelle les gens qui mangent très, très gras, puis ils mangent plus sucré, puis là, ils perdent du poids? Là. Il y avait un régime
keto,
comme ça, un régime keto. je sais pas si on peut encore en parler sans avoir de menace de mort, là, mais c'est rendu où le régime keto? C'est encore à la mode ou les gens ont complètement décroché de ça?
Je pense que les gens ont décroché. Puis c'est drôle parce que l'autre jour, j'écoutais un balado puis l'invité était comme, c'est une pro keto. Puis elle a dit, maintenant, on ne dit plus keto. On dit alimentation méditerranéenne, faible en glucides. Ah, OK, ça ne marche plus keto.
Ça
fait, vous avez changé de nom.
Ben oui. C'est cute. Quand tu parlais de ça comme ça, là, je trouvais ça assez particulier. Moi, j'avais déjà reçu une diététicienne qui, elle, était contre le régime keto. Puis elle avait eu des menaces de mort.
Ah ouais, ouais. Dans le temps, c'était fou.
C'est
là.
Sectaire, là.
C'est capoté, c'est complètement débile. Ouais. Mais c'est aussi que, puis encore là, tu sais, je comprends que ça a été prouvé dans la mesure où il y a vraiment des gens qui ont perdu du poids avec ça. Puis corrige-moi, Vanessa, là, mais j'ai l'impression qu'un des gros problèmes, c'est qu'il faut que tu le maintiennes à vie, parce que si tu arrêtes un moment donné, ben, en tout cas, de ce que j'ai compris, ouais, tu reprends pas mal ce que tu as perdu.
Oui, mais ça a beaucoup changé la patente au niveau de la pensée en lien avec l'alimentation. Là, je vous cacherai pas que ça a amené des réflexions qui sont intéressantes, notamment qu'il y a certaines personnes qui peuvent manger vraiment plus de gras puis moins de glucides. Mais effectivement, si tu le tiens pas à vie, tu vas finir par reprendre du poids. Puis à ce moment-là, mais le plus gros problème en fait de la diète keto, c'est que justement que les gens sont pas capables de le suivre. Ils sont pas capables de le suivre. Ils partent en voyage, ils vont chez des amis, ils vont au resto. Ils sont comme... C'est pas durable.
C'est pas super équilibré, là. Il y a quelqu'un qui te demande... ouais, mais là, je remplace mes tortillas avec quoi? Parce que là, tu as parlé des tortillas tantôt qu'il y avait beaucoup de listes d'ingrédients.
Je sais.
Il dit, je prends toujours ma portion quotidienne légumes, poulet là-dedans. Fait que là, je fais quoi? J'y prends au blé. J'ai-tu un substitut?
Non, au blé,
propose?
C'est pareil, là. Je sais pas. Je suis vraiment fâchée contre les tortillas. Mais en fait, il y a deux choses, OK? Là, dernièrement, j'ai découvert les... je suis même pas sûre que je vais vous le dire comme il faut. J'ai découvert les tortillas, je pense que c'est Azim, mais ça se vend chez Avril, qui sont clean. Sinon, il y a les pains pita. La différence entre un pain pita et un tortilla, c'est vraiment fou au niveau de la liste d'ingrédients. Mais tu sais, je vous ai dit ça, puis je vous avoue que si je mange des fighters, je vais en acheter. Là. C'est juste que, mettons, j'ai pas...
C'est un exemple.
Je me fais plus un wrap au thon que je pense santé sur l'heure du dîner. Tant qu'à ça, je vais me mettre dans un sandwich.
Comment... en fait, j'ai vu des affaires sur la libido avec l'âge. Je veux dire, on a un auditoire qui est autour entre 30 et 45, mettons, en majorité.
On est encore capable.
Vous êtes capable, oui, mais je veux prévenir. On prévient au lieu de guérir, Yannick.
Elle parle de nous autres comme des vieux finis.
C'est Yannick qui voulait que je pose la question. Il y a certains qui s'inquiètent d'une bonne libido avec l'âge. Est-ce que l'alimentation peut aider ou c'est un mythe?
Définitivement. L'alimentation peut aider. L'alimentation est très liée au système hormonal, puis la libido est liée aux hormones, là, on ne se le cachera pas. Là. Donc, d'ailleurs, les hommes, dans un contexte de fertilité, je m'en vais un petit peu ailleurs, là, mais la fertilité, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes maintenant de fertilité, puis les gens s'imaginent que c'est le dossier de la femme. Là. Mais même au niveau des hommes, tu vois, j'ai une collègue en tête, elle a fait une formation en nutrition pour la fertilité chez les hommes. Fait que tout ce qui est fertilité, libido, ça peut avoir un lien avec l'alimentation.
Je me rends compte de plus en plus que plus je suis pressé puis que j'ai pas planifié mes affaires, plus je mange mal.
Mm-hmm. Je pensais que tu allais dire plus que c'est difficile la libido.
Oui, mais là, Yann, ton problème est exposé.
Vanessa Deck, c'est une blague qu'elle faisait.
Je veux pas te...
Donc, non, plus tu manges mal.
Mais c'est vrai, tu sais, des fois, là, j'avais pas prévu rien pour souper, puis là, je me dis, ah, mais j'ai faim là, faut que ce soit rapide, puis c'est là que je prends des mauvaises décisions.
Ah, tellement, là, tellement.
Tu cotes tout le monde?
Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, de planifier, d'essayer de penser, de réfléchir notre semaine, c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est trop facile, justement. En fait, c'est que l'industrie alimentaire nous rend les choses simples. Fait que si t'as pas le temps, ça te tente pas de cuisiner, c'est du rapide, c'est du prêt-à-manger. Fait que c'est l'industrie alimentaire, c'est les aliments transformés, puis, tu sais, ça nous arrive tous. Là, fait que, tu sais, il faut avoir des backups, il faut voir ça venir. Ouais.
Tu parlais d'entraînement tout à l'heure. Les gars sont capables de descendre un taux de gras qui est hallucinant, là, ouais. Un genre de 3-4%. Puis les filles sont capables de descendre jusqu'à 10-12%, mais c'est quand même dangereux pour leur vie. C'est quoi le pourcentage de gras idéal pour gars, pour une fille?
Eh hey, mon Dieu! Honnêtement, c'est une bonne question dans le sens que je navigue plus là-dedans. Ouais. On n'est plus de même en nutrition de dire comme « Ah, c'est quoi ton pourcentage de gras? » On calcule plus ça. Moi, je travaille en virtuel, j'aide les gens. Puis même des fois, quand j'aide les gens en perte de poids, ouais. Des fois, je leur demande même pas leur poids dans le sens que moi, ma job, moi, je suis la spécialiste de l'alimentation. Fait que ce que je vais faire, c'est t'aider à améliorer le plus possible ton alimentation. Je suis pas la spécialiste de du pourcentage de gras dans le sens que les gens pensent que le gras, la masse corporelle, c'est activité physique puis alimentation, mais il y a tellement plus que ça. Il y a, tu sais, les hormones, justement, l'environnement, la psychologie, la médication. Fait que, tu sais, nous, on focus sur l'alimentation puis le pourcentage de gras, tu sais. Ça se peut qu'ils suivent, ça se peut qu'ils suivent pas. C'est plus complexe que ça, malheureusement. Fait que tout ça pour te dire que ça fait tellement longtemps que j'ai pas partagé ces données-là, ouais. Que je les ai même plus en tête.
Tu sais, il y en a qui ont des belles réussites, là. Je pense à mon amie Sylvie qui est avec moi sur mon Facebook. Elle a perdu 100 livres. Elle est en attente d'une opération, là, la fameuse chirurgie bariatrique. Puis ceux qui pensent que la chirurgie bariatrique, c'est magique, puis c'est des lâches qui font ça. Sérieusement, elle a perdu 100 livres avant son opération. Mm-hmm. Moi, j'ai énormément de respect. Oui. Pour Sylvie. Mettez 100 petites livres de beurre un à côté de l'autre. Là.
C'est fou. Hein?
C'est ça qu'elle a réussi à éliminer avant d'aller à son opération. Je trouve ça formidable. Mais pour atteindre ces objectifs-là, il faut vraiment passer par des gens qui sont des professionnels. T'sais, j'imagine que pour ce qui est de la chirurgie bariatrique, il y a des diététiciennes ou des nutritionnistes qui l'accompagnent. Mais c'est possible de perdre 100 livres. Elle a réussi à le faire en un an pratiquement. Là.
C'est pas possible pour tout le monde. Ça dépend vraiment d'où qu'elle part, de comment qu'elle le fait. Mais tu sais, c'est sûr que il y a tellement de monde, justement, qui veulent ça, là, la quête de la perte de poids. Mais c'est que c'est multifactoriel. Hein. Comme je viens de vous dire, c'est plus compliqué que juste un déficit calorique. Fait que, tu sais, puis souvent, justement, en nutrition, on va être là aussi pour les aider au niveau, tu sais, comportemental et psychologique. Là.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est bien beau de savoir ce que tu dois mettre dans ton assiette. T'sais, les gens, ils savent là, qu'il faut qu'ils mangent plus de légumes, qu'il faut qu'ils mangent moins transformés. Mais au final, pourquoi tu le fais pas? Tu sais, c'est parce que, justement, tu gères mal ton temps, c'est parce que t'as pas de compétences culinaires, c'est parce que t'as pas d'inspiration, c'est parce que tu sais pas comment le faire. C'est ça aussi qu'il faut travailler, c'est parce que tu manges tes émotions.
Je pense qu'il y a le fait aussi de. Puis, moi, si je me trompe, Vanessa, là, mais en terminant, je pense que le fait aussi qu'on a tendance à penser qu'il y a une solution ou un plan magique pour tous, tandis qu'on a tous nos problèmes individuels,
100%.
Notre système individuel, qui fait que ce qui va marcher pour Yann ne marchera définitivement pas pour moi. Puis
100%.
C'est peut-être là que c'est intéressant, des fois, d'aller consulter juste pour au moins comprendre de base, toi, ton système marche comment.
Mm-hmm.
Vanessa Daigle, nutritionniste, pour te suivre, on te trouve à quel endroit?
Instagram, Van Baramba. Ouais, Van Baramba, nutritionniste.
Mais tu t'en vas sur la route, là, à cette température-là?
Fais attention.
100%, je vais être prudente.
Ouais, c'est ça. OK, au plaisir de te rejaser. Vanessa Daigle, les nutritionnistes. Nous, on fait une courte pause et 11h06. Boulevard 102.1.